Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir. La reprise du dialogue sur les retraites entre les partenaires sociaux et le gouvernement, ce sera le 7 janvier, annonce de Matignon ce soir. Stéphane Robert nous en dit plus dès le début du journal. En attendant, certaines professions sont toujours vent debout contre la réforme. C'est le cas dans les raffineries. Deux d'entre elles se sont mises à l'arrêt aujourd'hui. Le gouvernement essaie de rassurer sur le risque de pénurie, nous dira Marie Viennot, même si par endroits, cette pénurie est déjà là. En Algérie, la mort du puissant chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Et après, quelles suites, quelles conséquences, nous en discuterons avec le spécialiste du Maghreb, Kader Abderrahim. En Arabie Saoudite, 5 condamnés à mort dans l'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Mais les associations de défense des droits de l'homme comme Reporters sans frontières dénoncent l'opacité de la procédure. Et puis, il a fait les frais d'une crise qui durait depuis plusieurs mois. Le patron de Boeing a démissionné aujourd'hui. Aussitôt parti, aussitôt remplacé. Pas sûr que cela suffise pour redorer le blason du constructeur d'avions, selon un spécialiste. Voici une date que les syndicats vont sans doute marquer d'une croix dans leur calendrier 2020. Le 7 janvier, ce sera le jour de la reprise du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux à propos de la réforme des retraites. Matignon l'annonce ce soir dans un communiqué succinct, mais on en sait tout de même un peu plus, Stéphane Robert.
Édouard Philippe avait promis jeudi dernier un programme de travail et un calendrier pour poursuivre les discussions entamées sur la réforme des retraites. Les travaux avec les partenaires sociaux reprendront donc le mardi 7 janvier. Les organisations syndicales et patronales seront reçues par 4 ministres. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Agnès Buzyn en charge de la Santé, Laurent Pietraszewski, tout nouveau secrétaire d'État aux retraites, ainsi qu'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il s'agira de discuter, indique Matignon, des aménagements envisageables pour prendre en compte la pénibilité d'un certain nombre de professions et puis également de construire une stratégie globale pour le maintien dans l'emploi des seniors. Pour ce qui concerne l'équilibre financier du système, autrement dit la question de l'âge pivot à 64 ans, le Premier ministre indique qu'il va poursuivre les consultations et proposera une méthode de travail dans la semaine du 6 janvier. Il y aura également des discussions dans l'éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer ainsi que dans l'enseignement supérieur avec Frédéric Vidal. Par ce communiqué, Matignon fait savoir que le gouvernement a l'intention de respecter ce qu'il est convenu d'appeler la trêve des confiseurs à l'occasion des fêtes de fin d'année et d'ignorer totalement la grève qui se poursuit en particulier dans les transports. Circuler, semble dire Édouard Philippe, à Sud, Force ouvrière et à la CGT, il n'y a rien à attendre du gouvernement avant 15 jours. Il fait sans doute le pari que d'ici là, le soutien des Français aura reculé et que le conflit se sera enlisé.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. En attendant le dialogue, la grève se poursuit, la pression monte par exemple dans les raffineries des salariés dont la retraite complémentaire doit être absorbée dans le nouveau système à points. Beaucoup d'opérateurs sont en grève depuis le 5 décembre. Aujourd'hui, 2 raffineries se sont mises à l'arrêt dans les Bouches-du-Rhône et en Seine-et-Marne. De quoi craindre la pénurie ? C'est la parole des grévistes contre celle du gouvernement, Marie Viennot.
Sur cette question des pénuries d'essence, c'est communication contre communication. Côté gouvernement, le ministère des Transports affiche depuis le mouvement de grève dans les raffineries, c'est-à-dire depuis le 5 décembre, sa totale quiétude. Encore aujourd'hui, alors que 2 raffineries sur 8 ont décidé de se mettre à l'arrêt, il écrit dans un communiqué « La logistique pétrolière est robuste, elle repose sur un réseau de 200 dépôts et actuellement, seulement 2 sur 200 connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions. Il n'est donc pas nécessaire, dit le communiqué, de faire des pleins de précaution. En d'autres mots, c'est la crainte de la pénurie qui pourrait causer la pénurie. Du carburant dans les cuves, oui, il y en a. C'est même la conséquence de la grève, car depuis le 5 décembre, les livraisons vers les dépôts ont été limitées, voire interrompues. Mais ici ou là, la pénurie est déjà là et elle va s'accentuer, selon Thierry Defresne, délégué syndical central de Total Raffinerie, parce que ce carburant ne pourra pas passer des raffineries aux dépôts, puis des dépôts aux stations essence, faute de personnel non gréviste pour assurer son acheminement.
Des ruptures partielles, on en a là actuellement. Au moment où je vous parle, sur 2000 stations Total, on en a à peu près une quarantaine qui sont complètement à sec et on a 500 qui sont au moins en rupture sur au moins un produit. Non, on ne sera pas en pénurie complète en France, on aura des produits à des endroits, mais le transfert vers les dépôts, le chargement des camions ou les sorties de raffinerie, ça va être extrêmement difficile. Donc voilà, ce produit va être entre guillemets piégé.
Ce qui va être crucial dans les jours qui viennent, c'est donc le pourcentage de grévistes dans les raffineries et les dépôts. En tout cas, c'est clair, il n'y a pas de trêve des confiseurs entre les raffineurs opposés à la retraite à points et le gouvernement.
Et pas de trêve de Noël non plus. À la SNCF, la grève se poursuit demain. Les dernières prévisions pour les transports nous sont parvenues. Rouleront 2 TGV sur 5, 4 TER sur 10. Pour les Transiliens, 1 sur 5. Même chose pour les Intercités. Du côté de la RATP, 6 lignes de métro seront toujours fermées. En Corse, une branche du Front de Libération Nationale Corse, dit du 22 octobre, revendique l'attentat contre les villas Ferracci. 2 villas au cœur d'un conflit judiciaire car édifiées sans permis dans un site protégé. Elles ont été vendredi la cible d'un attentat aux bouteilles de gaz. Nous n'avons pas baissé la garde, dit le FLNC, 2 ans après avoir annoncé sa démilitarisation. Il était chef d'état-major de l'armée algérienne. Il est décédé ce lundi à 79 ans. Ahmed Gaïd Salah, réputé rigide, intransigeant, une main de fer dans un gant de fer. Ça, c'est pour le côté personnalité. Côté implication politique maintenant, parce qu'il en avait du pouvoir politique. Gaïd Salah, bonsoir Kader Abderrahim.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste du Maghreb. Gaïd Salah avait exigé et obtenu en mars dernier la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, mais dans les faits, Gaïd Salah était en fait une incarnation du système.
Oui, il était issu du même moule que tous les hommes qui sont aujourd'hui aux commandes de l'Algérie et qui ont placé au devant de la scène l'institution militaire qui est aujourd'hui s'est érigée en véritable pouvoir en lieu et place des civils. Donc l'armée, pour la première fois depuis le début des années 90, assumait la réalité du pouvoir sans aucun complexe.
Et finalement, avant de mourir, est-ce qu'on peut dire que Gaïd Salah a obtenu ce qu'il voulait? L'élection, le 12 décembre, d'Abdelmadjid Tebboune, un fidèle, hein, ancien Premier ministre de Bouteflika, finalement toujours une personnalité du système.
Absolument. Gaïd Salah a été très attaché à l'organisation et à la tenue de cette élection présidentielle. Il en avait fait l'alpha et l'oméga de son pouvoir politique et il avait martelé qu'il fallait impérativement, indépendamment des revendications du Hirak, qu'il fallait impérativement pour l'Algérie retrouver sa légitimité. Je crois que c'est là où il s'est trompé, où il a fait une erreur. On n'est pas revenu à la légitimité, il n'y en a jamais eu en Algérie. En revanche, on peut dire qu'il y a eu un retour à la légalité constitutionnelle, une légalité qui avait été bafouée depuis le 9 juillet dernier avec la fin du mandat d'intérim du président du Conseil de la Nation, le président Abdelkader Ben Salah.
D'accord, donc vous parlez d'un retour à la légalité, cela ne veut pas pour autant dire que cette élection est cautionnée par la rue, parce que une autre partie de l'équation qui pèse lourd, on peut le dire, c'est cette contestation populaire dans les rues d'Algérie. Dis-moi qu'elle dure, est-ce que la mort de Gaïd Salah, qui a été vu comme le gardien, le symbole d'un système, peut résorber selon vous la colère des manifestants?
Ça me paraît difficile parce que je crois que le régime a une dynamique qui n'a rien à voir avec l'institution militaire. Et que puisqu'il s'agit, et c'est l'intérêt de tous, de militaires comme des civils, puisqu'il s'agit de pérenniser ce régime politique et sa nature même, ce ne sont pas les hommes qui comptent, ce sont les structures. Et elles survivront à Gaïd Salah comme elles ont survécu à d'autres dirigeants militaires. Donc je crois qu'aujourd'hui son successeur a été nommé très rapidement, le général-major Saïd Chengriha, qui est le commandant, qui était jusque-là le commandant des forces terrestres, vient de succéder au général-major Ahmed Gaïd Salah.
Parlons-en justement de ce successeur. Hein. Il est plus jeune, ça c'est sûr, il est moins campé sur ses positions aussi, plus ouvert au dialogue peut-être.
C'est la réputation qu'on lui prête. On va voir très rapidement, dans les jours qui viennent, la période de deuil qui a été décrétée par le président de la République est de 3 jours. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, si un geste est fait à l'égard du Hirak et par exemple l'annonce de la libération, de l'élargissement des prisonniers, cela sera sans doute interprété de manière très positive.
La question de la libération des prisonniers est une question centrale pour vous, vraiment déterminante?
Au moment où nous parlons, oui. Parce que la principale revendication des manifestants et des Algériens aujourd'hui, c'est la libération des prisonniers politiques qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir participer à la contestation de manière pacifique.
Et est-ce que la mort de Gaït Salah va changer quelque chose pour la France, je pense à notre collaboration avec l'armée algérienne?
Non, je ne pense pas. On dit beaucoup que le général Chengriha est très francophile, ce qui est vrai, qu'il est francophone, qui est vrai aussi, alors que la majorité des officiers supérieurs aujourd'hui sont exclusivement des arabisants. Est-ce que pour autant cela changera la nature de la relation avec la France? Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour le dire et je pense qu'il va falloir aussi évaluer le nouveau rapport de force qui ne manquera pas d'émerger de cette succession.
Eh bien, on suivra ça attentivement. Merci Kader Abderrahim d'avoir répondu à nos questions sur France Culture. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Maghreb, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur aussi de Géopolitique de l'État islamique aux éditions Erol. Merci.
Merci à vous.
5 Saoudiens condamnés à la peine de mort. Ils étaient poursuivis pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, sentence annoncée aujourd'hui par un tribunal de Riyad qui a disculpé 2 des principaux suspects, un conseiller royal et un chef du renseignement. Les proches du prince Mohamed Ben Salman et le prince lui-même s'en sortent donc indemnes et la décision révolte les associations des droits de l'homme. Christophe Deloire est secrétaire général de Reporters sans frontières.
Malheureusement, on a reçu cette annonce avec un peu plus même que de la circonspection, une espèce de désolation. C'était censé élucider l'affaire Khashoggi et cette procédure n'a respecté aucun des standards internationaux de la justice. Une enquête bâclée, des procédures à huis clos avec des diplomates qui ont pu assister mais à qui il était fait interdiction de raconter à l'extérieur ce qui se passait. Bref, c'était porte fermée et des décisions qui ont toute décision discrétionnaire avec des acquittements pour certains, ceux qui étaient de rang le plus élevé, et des condamnations à la peine de mort dans cette affaire. Ça ressemble à une chose, c'est simplement la volonté de dissimuler à jamais, si ces peines devaient être exécutées, la voix de ceux qui pourraient témoigner sur ce qui s'est passé, parce qu'ils en ont vraisemblablement été les acteurs.
Ça permet à MBS, Mohamed El Salman, de s'en sortir honorablement, entre guillemets?
Mohamed Ben Salman, le prince héritier, il est en train d'essayer de reconstruire son image. Il a dit qu'il n'y était pour strictement rien. C'est ce que veut laisser croire aussi ce jugement. Donc il faut encore qu'on se batte pour obtenir la pleine vérité, pour qu'une justice digne de ce nom soit rendue et pour que les conclusions politiques soient tirées, s'agissant de Khashoggi et s'agissant de tous ceux qui sont arbitrairement détenus en Arabie Saoudite.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier de son côté Washington. Salue ce soir un pas important, mais appelle tout de même l'Arabie Saoudite à plus de transparence. Des crises successives auront eu raison de son poste. Le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, a démissionné aujourd'hui. Le groupe était en difficulté, empêtré dans la crise du 737 MAX, un modèle cloué au tarmac depuis le 13 mars à la suite de 2 catastrophes aériennes qui avaient fait 346 morts. Un nouveau président du conseil d'administration a déjà été nommé, David Calhoun. Un visage neuf, est-ce suffisant pour sortir Boeing du bourbier? Rien n'est moins sûr pour Xavier Titelman. Il est spécialiste de la sécurité aérienne pour le cabinet CGI Consulting.
C'est vrai que d'une manière générale, quand la crise est finie, on change le directeur parce que son nom est associé à la crise et donc le fait de passer à quelque chose de nouveau, on passe à un nouveau nom, voilà, pour incarner ce renouveau. Là, c'est une démission qui intervient après 2 échecs. L'échec, évidemment, sur le 737 MAX qui va pas reprendre les vols commerciaux au mieux avant juin 2020, donc très tard. Et puis l'échec la semaine dernière du Starliner, donc le système de cargo spatial qui était en association avec la NASA. On a 2 très mauvaises nouvelles successives en moins d'une semaine. On a cette démission qui intervient juste après. Est-ce que c'est une décision personnelle de sa part? C'est trop pour lui. Il craque, il veut passer à autre chose, il veut abandonner, il jette l'éponge. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est parfaitement réfléchi, une communication qui est bien maîtrisée, parce qu'on a des solutions qui vont arriver très bientôt, parce qu'ils sont dans une reconstruction et ils veulent une nouvelle personne pour incarner ce renouveau et cette réussite de la sortie de crise? Aujourd'hui, clairement, on n'a pas de réponse. Et qui pilote la barque aujourd'hui? Est-ce que la personne qui le remplace a eu le temps des semaines et des mois de travail pour se préparer aux différents enjeux? Ou est-ce que c'est quelqu'un maintenant qui va devoir monter en compétence, qui va reporter d'autant de semaines le travail de recertification de l'avion?
En tout cas, l'annonce du départ de Muhlenberg a été saluée en bourse. L'action du groupe a un peu décollé de 4%. Boeing accusait depuis mars une perte de plus de 20%. La météo de demain, ce sera de la pluie sur la plus grosse partie de la France. En revanche, sec et ensoleillé sur les régions méditerranéennes et le relief pyrénéen. Côté thermomètre, comptez demain matin entre 2 et 6 degrés sur la façade est, de 5 à 12 degrés partout ailleurs. C'est la fin de ce journal qui a été préparé avec l'aide d'Emmanuel Faucillon à la technique. C'était Marie-Claire Oumabadi.